d'emploi. Mode d'emploi.
Bonsoir, bonsoir à tous. Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 de la bande FM. Vous êtes en compagnie de l'émission Mode d'emploi d'AC, AC 19-20, et je suis avec Gilles. Bonsoir Gilles.
Bonsoir Ludo, bonsoir à tous.
Alors ce soir, nous allons parler, pour changer, n'est-ce pas, du projet de réforme de l'assurance chômage, en fait, et particulièrement du collectif unitaire sur l'UNEDIC qui s'est créé et qui regroupe une association, des associations de chômeurs, voire des partis politiques aussi. Et donc, pour en parler, je reçois Odile et Catherine Dassé. Évidemment, hein, pourquoi reparler de ça? Eh bien, en fait, c'est parce que dans les tuyaux, il y a un projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, qui donc est en cours de validation auprès du Conseil d'État, mais qui n'a pas encore été proposé à la Chambre des députés, et donc qui porte effectivement des dispositions de réforme de l'UNEDIC et donc du paritarisme à la française, on va dire, et évidemment aussi, comme son nom l'indique, des projets pour la formation et la formation professionnelle, et tu nous en parleras, Gilles, après. Et donc on va commencer déjà par cette fameuse réforme du paritarisme que porte Monsieur Macron et dont il a beaucoup parlé pendant la campagne électorale. Alors Odile, vous, en tant que membre d'AC, vous avez suivi les négociations qui se sont terminées en février et qui se sont un peu terminées en eau de boudin, j'ai envie de dire, c'est-à-dire sans accord définitif précis. On attend encore des signatures.
Si, il y a eu un accord. Il y a eu un accord. Bon, donc...
Oui. Mais vas-y, alors dis-nous qui a signé, alors, encore une fois. C'est la CGT, c'est la CFDT?
Il y a eu un accord national interprofessionnel, donc signé par les partenaires sociaux, je pense, sauf la CGT, mais je crois que la CFDT, FO... ont signé, les autres syndicats, enfin les syndicats habituels ont signé.
D'accord.
Et donc, c'est des négociations qui se sont déroulées depuis à peu près le début janvier jusqu'au 22 février. Et il y a eu cet accord a été signé et par la suite, le gouvernement doit déposer un projet de loi le 25 avril prochain, qui reprend en fait très largement les propositions de contenu dans cet accord. Le contenu du projet de loi est déjà connu puisque on a un gros texte de loi d'une centaine de pages, mais qui en fait dont la majeure partie porte sur la question de la formation professionnelle et en fait une refonte totale du dispositif de formation professionnelle et l'apprentissage. Il y a que le projet par rapport à l'assurance chômage, de refonte de l'assurance chômage, disons, est une petite partie à l'intérieur de ce projet de loi.
Alors c'est bien hein, ce qui nous préoccupe en premier, puisque ce qui préoccupe avant tout, c'est d'avoir l'indemnisation des chômeurs. Vous-même, vous avez publié un texte qui est à la fois d'information et de critique. Hein. En cours d'élaboration, un texte en cours d'élaboration. Et donc, la question, c'est quand même, est-ce que vers quoi va aller maintenant le régime d'indemnisation des chômeurs?
Comme on sait, depuis l'élection de Macron... il avait dit plus ou moins dans sa campagne électorale qu'il souhaitait que l'État reprenne la main sur la gestion de l'assurance chômage, avec une remise en cause plus ou moins explicite de la gestion paritaire. Les partenaires sociaux, évidemment, se sont un peu opposés à cette orientation dès que Macron a été élu. Mais quand on voit ce qui se passe, donc les choses sont pas clairement dites. Mais de la façon dont les choses se passent, on voit très bien que tout va dans le sens d'une reprise en main par l'État. Et pour plusieurs raisons, c'est-à-dire on a derrière, il faut voir que ce projet se situe dans un tout un ensemble de réformes, que, parce que il y a énormément de choses que Macron met en place en ce moment et qui vont dans le sens d'une destruction du de notre système de protection sociale, hein, il faut le dire. Donc il y a tout un ensemble de choses qui d'abord ont concerné la déréglementation totale du marché du travail, avec le développement de la flexibilité, de la mobilité pour les salariés, sans plus aucune limite. Et donc du côté de la protection sociale, bien évidemment, il faut faire passer la pilule, mettre en avant quelques mesures de ce qu'on appelle la flexi-sécurité pour faire accepter la mobilité et la flexibilité aux salariés, en leur donnant un petit peu plus de sécurisation sur le plan de leur parcours. Mais en réalité, tout va dans le même sens, c'est-à-dire que on va vers une individualisation de plus en plus poussé des droits, avec notamment le compte personnel d'activité, le développement de systèmes contributifs à points, hein, comme avec une prochaine réforme des retraites qui va arriver aussi, qui serait sur ce modèle-là, et avec une fiscalisation de plus en plus complète du financement de la protection sociale et remplacement des cotisations par de la CSG ou de la TVA, qui avait quand même déjà commencé depuis 20 ans, mais c'était pas aussi c'était pas aussi poussé.
Donc en résumé, monsieur Macron fait le tournant libéral que madame Thatcher a fait.
Ultra libéral.
Catherine.
Oui, sur cette réforme de la gouvernance de l'UNEDIC, on a appris mercredi, parce qu'il y a eu une réunion avec les administrateurs CGT de l'UNEDIC, on avait sollicité une rencontre de tous les administrateurs de l'UNEDIC, il n'y a que la CGT qui a répondu à notre demande. Et là, comme le MEDEF change de direction au mois de juillet, on a appris que peut-être que le MEDEF ne voudrait pas intégrer la nouvelle gouvernance où il y aurait l'État.
Donc le MEDEF se retire, c'est un scoop, le MEDEF se retirerait de la gestion du NEDIC.
Pour le moment, il laisse le suspense complet.
Disons qu'à mon avis, si ce texte de loi passe, on n'aura plus qu'un simulacre de paritarisme, parce que en fait, l'État imposerait un document de cadrage financier qui serait quasiment impératif, et si les partenaires sociaux ne le suivent pas, ils auront des rappels à l'ordre, et à un moment donné, l'État imposera ses volontés par décret ou autre. Donc, et là, on aurait aussi une certaine harmonisation. Alors, on sait pas comment pour le moment, mais peut-être on irait vers une certaine unification et harmonisation entre les régimes d'assurance chômage et de solidarité.
Alors il faut bien expliquer ça aux auditeurs, hein. Grosso modo, jusqu'à maintenant, le système d'assurance chômage fonctionne donc sur les cotisations. Les cotisations que vous-même et le patron versez, les salariés payent, donc qui apparaissent sur votre feuille de paye, alors que le régime, les régimes indemnitaires, on va dire, tels que la SS, pour ceux qui n'ont pas travaillé depuis 10 ans, pardon. Pour ceux qui sont en fin de droit, en fait, ou le RMI, enfin le RSA, l'ancien RMI, donc l'ancien le RSA, eux sont financés par l'impôt. Or, il s'agit pour M. Macron de baisser les cotisations sociales fortement, et de les compenser par la CSG ou la TVA. Et donc, effectivement, d'aller vers un régime qui ne serait plus un régime assurantiel pour l'assurance chômage, justement, mais un régime indemnitaire dont on peut craindre qu'il serait à la baisse, et donc il serait composé en partie d'une indemnité de l'État et d'un complément qui serait lié aux cotisations.
Oui, c'est bien clair que ce projet de loi, il n'apporte aucun moyen supplémentaire pour l'assurance chômage. Et non seulement ça, mais il en enlève. Enfin, c'est pas clairement dit dans le, mais il y a, quand on regarde les, la dizaine de pages de ce projet de loi qui concerne strictement le fonctionnement de l'assurance chômage, il y a partout un glissement au niveau du vocabulaire. C'est-à-dire, au lieu de parler de contribution des employeurs et des salariés, fondée sur le traitement brut, comme il y avait avant, on remplace ce mot de contribution par le mot de ressources de l'assurance chômage, mais ces ressources pouvant être provenir de, d'ailleurs que des contributions
et pouvant être variables en fonction de la bonne volonté de l'État ou de sa bonne santé financière.
Voilà. Et alors, pourtant, par ailleurs, ben il y a eu la suppression des cotisations des salariés depuis. Alors, il faut quand même préciser pour les auditeurs qui ne le savent pas. Que depuis les années 90, on a eu énormément d'allègements d'exonération de cotisations sociales sur les cotisations maladie, par exemple. Mais jusqu'à présent, les cotisations d'assurance chômage n'avaient pas été concernées. Alors que là, donc pour la première fois, les cotisations salariées sur l'assurance chômage ont été carrément supprimées, ce qui veut dire déjà une baisse des recettes
elles sont complètement supprimées.
13 milliards sur 35 milliards de budget de l'assurance chômage, donc c'est considérable, ça représente le tiers. Après, il y a un autre projet pour le début de l'année 2019 qui consiste à transformer le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, donc ce qu'on appelle CICE, et qui, lui, représente à peu près 20 milliards par an, bien le transformer en des baisses de cotisations patronales permanentes. Jusqu'à, alors, ça serait dégressif, mais assez fortement jusqu'à 1,6 fois le SMIC, et après jusqu'à 2,5 fois le SMIC. Et alors, cette fois-ci, ces exonérations de cotisations porteraient surtout sur les cotisations d'assurance chômage et sur les complémentaires de retraite. Donc, on peut imaginer le manque à gagner qu'il va y avoir dans les caisses de l'assurance chômage avec ça.
En fait, on pourrait dire, sans trop exagérer, que l'État est en train d'organiser le futur déficit de l'UNEDIC.
Tout à fait, c'est probablement ça, mais il n'y a même pas, enfin, je pense qu'ils ont parlé de la CSG, en réalité, ils ont fait passer une hausse de la CSG en disant que c'était pour compenser la suppression des, mais en fait c'était surtout pour faire passer la pilule de la hausse de la CSG. Mais bon, après, pour ce qui concerne les cotisations patronales, rien n'est précisé sur de quelle façon ce serait compensé ou pas compensé. Donc on peut se poser la question, se dire chaque année au moment du vote de la loi de finances de la sécurité sociale, eh ben il va falloir se mobiliser pour avoir 3 sous pour l'assurance chômage.
Et en quelque sorte en sautant l'étape de la négociation qui était jusqu'à maintenant indispensable entre
cette négociation là pourrait subsister, mais avec ses contraintes de cadrage financier, parce que en même temps là pour les années qui viennent, c'est l'État demande, exige à peu près 850 millions d'économies chaque année.
Oui, tout à fait. Alors pour juste donner quelques chiffres pour l'auditeur, les cotisations, le taux de cotisation est passé de 6,4% en 2003 à 4% en janvier 2018.
4% voilà. Maintenant, oui, puisque c'est une cotisation salariée.
Exactement. Et du coup, donc auparavant, bien sûr, il n'y avait jamais eu d'augmentation. Donc là, on est vraiment dans une baisse, une logique de baisse de charges.
Alors, il faut savoir.
Sans dire que ce soit drastique, mais en tout cas, il y a réellement une baisse de...
Faut savoir que le taux de cotisation, les taux de cotisation sont bloqués depuis 2003, alors que sur les 10 dernières années, le nombre de demandeurs d'emploi a doublé.
Voilà. Et voilà. Et donc, effectivement, à ce jour, le financement UNEDIC repose à 60% sur les cotisations sociales.
Patronales.
Voilà. Ce qui est quand même pas énorme. Et donc, de fait, le régime provoque un déficit cumulé de 33 milliards d'endettement. voilà, ce qui est, oui, Catherine.
À cette réunion qu'on a eue avec les administrateurs CGT, eux, ils disent les économies de l'État savent que la dette est un leurre. Et la dette est derrière nous. En 2019, il y aura une résorption des emprunts pour ce qui concerne l'UNEDIC. Tout ça, c'est une gestion organisée par l'État. Parce que la sécurité sociale récupérera l'excédent. Donc, c'est des conclusions que la CGT a sur cette dette, cette question de la dette.
Oui, sachant que certains économistes prévoient un retour à l'équilibre.
Nous, on pense pas du tout ça.
Avant la réforme, du moins.
La financiarisation est quasiment un choix politique. Donc, qui a été fait depuis. Alors. Sur le long terme, depuis les années 90 surtout, depuis une vingtaine d'années, 25 ans, mais en réalité, la dette a commencé à devenir très importante depuis 10 ans. Mais là, quand on regarde cette dette d'abord, sur l'ensemble de la dette publique, ça n'en représente qu'une très peut-être petite partie, la dette des organismes de protection sociale. Bon, je pense que c'est de l'ordre peut-être de 10 à 15% de la dette publique. Et donc, ce sont des choix qui, à un moment donné, ont été en faveur de l'endettement. Et parce que, pour des raisons de commodité, parce que pendant un bon moment, les taux d'intérêt n'étaient pas élevés. Donc, et puis, les modalités de recours au crédit sont très, très opaques. Donc, notamment, les créditeurs de l'UNEDIC ne sont absolument pas connus. On ne sait pas qui c'est. Et souvent, c'est des gens qui ont des comptes dans les paradis fiscaux, etc. Et ça, par l'intermédiaire de grandes banques, comme la BNP, etc. Donc, et en plus, il y a plusieurs sortes d'emprunts que fait l'UNEDIC sur les marchés financiers, dont une partie est garantie par l'État et l'autre partie n'est pas garantie. Donc, on peut imaginer que si les taux d'intérêt remontent, eh bien, on risque d'avoir des grosses surprises sur la charge que représente la dette de l'UNEDIC. Il va falloir se serrer la ceinture. Les chômeurs vont être obligés de se serrer la ceinture.
Oui, sachant que le déficit, en fait, a explosé avec la crise. Et que en n'augmentant pas donc les ressources, oui. Il dit que voilà, on a laissé aussi le déficit.
Déficit a été absolument organisé, surtout qu'il y a des charges en plus qui n'existaient pas avant. Par exemple, depuis 2009, quand il y a eu l'unification, la création de Pôle Emploi avec l'unification à l'NPE à CEDIC, l'État qui auparavant finançait Pôle Emploi, la NPE a cessé de prendre en charge les frais.
Donc, ce qui fait d'ailleurs que le déficit,
c'est une partie
des ressources très importante de l'UNEDIC qui passe dans la gestion de Pôle Emploi.
Voilà, et avec beaucoup de recours à des partenaires extérieurs et à des prestataires se révèlent être coûteux et pas forcément d'une efficacité extraordinaire.
Tout à fait, oui. Ramener au coût, à l'efficacité par rapport au coût, à la limite, parfois Pôle emploi fait mieux sans prestataire.
Donc, si je comprends bien, tu veux dire par là que les solutions qui sont données pour résoudre la dette de l'UNEDIC vont l'augmenter pour le coup, parce qu'ils n'ont pas pris les bonnes décisions, a priori. 33 milliards de dettes, et là, apparemment, ça va augmenter dans les années qui vont venir.
Il y a beaucoup de choses derrière. Il y a beaucoup de choses qu'on ne maîtrise pas, notamment du point de vue de la façon dont sont passés ces contrats. Parce que là, faut se dire qu'il y a l'UNEDIC, mais il y a l'ensemble de la protection sociale et de la dette publique qui fonctionne de la même manière. On passe des contrats avec des grandes banques, avec des créditeurs qui font partie du secteur privé, et tout se passe dans une opacité totale. Donc on ne maîtrise pas, ni les taux d'intérêt, ni la façon dont ces contrats sont libellés, d'accord, ni quoi que ce soit.
Donc il n'y a pas de transparence de la part des syndicats gestionnaires de l'UNEDIC, puisqu'ils seraient censés, la CGT, la CFDT, le MEDEF serait censé rendre public un minimum.
Non, C'est pas... Il y a aussi que les pièces comptables qu'ont en main les administrateurs, elles sont aussi des fois assez opaques. Et il faudrait peut-être qu'ils creusent un petit peu plus certaines lignes comptables pour savoir un peu où sont les dépenses.
Et je crois qu'on leur remet, d'ailleurs, quand il y a les réunions du conseil d'administration, on leur remet les documents sur la table au moment même de la réunion.
Et
ils n'ont même pas le temps d'en prendre connaissance.
Ah oui, mais alors qui gère ça à la fin? C'est le MEDEF, en principe, qui est gestionnaire, avec souvent la CFDT ou un syndicat qui gère.
Je pense qu'il y a des
intérêts. Qui contracte ces emprunts, par exemple? C'est pas l'État directement.
Même non,
si
c'est
les emprunts
pas l'État,
sont garantis par l'État.
C'est l'UNEDIC.
C'est l'UNEDIC.
En fait, en tant que... Voilà.
Administrateur de l'UNEDIC.
En tant que contractant.
Okay. Il faut voir qu'il y a, donc, il y a 33 milliards de dettes à l'UNEDIC, mais il y a également 56% des chômeurs qui sont indemnisés. Donc, plus de 54% de gens de chômeurs qui ne sont pas indemnisés.
Alors les chiffres ont quand même un peu baissé. On est plus proche de 46 que de 56
maintenant.
C'est pas vrai. C'est plutôt 42%.
Voilà,
mais là,
42%, voilà.
D'accord.
Les chiffres sont un peu variables selon les moments.
Mais j'ai lu un truc qui est passé, peut-être que j'ai mal compris, mais apparemment maintenant pour indemniser un chômeur, il va falloir qu'on regarde un petit peu si dans sa famille il n'y a pas quelqu'un qui travaille pour éventuellement recalculer ses indemnités.
Alors ça, on va en parler.
Oui,
après une petite pause.
Ah bon, d'accord.
L'air slam, j'ai l'air slam. Je suis né à Ville-d'Avray, mes parents étaient bien français, ma mère s'appelait Jeanne et mon père Victor. Moi je m'appelle Igor. Je suis tellement influencé par mon prénom qu'à toutes les fenêtres de la maison, je viens de faire mettre des rideaux de fer. Mais je les laisse ouverts, j'ai l'âme slam.
Ouais.
Bonsoir à tous, vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 de la bande FM. Vous êtes dans l'émission Mode d'emploi. Mode d'emploi, c'est l'émission d'Agir ensemble contre le chômage. L'émission, donc, c'est l'équipe AC19 ans. Je suis en compagnie de Gilles.
Oui.
Bonsoir Gilles.
Bonsoir à tous.
Et d'Odile et de Catherine d'AC qui nous parle effectivement de l'indemnisation du chômage. Et on faisait jusqu'à maintenant un espèce d'état des lieux de la situation financière de l'UNEDIC, très, très modestement, avec les éléments que nous avons tous. Et donc, Odile, on était passé effectivement à l'état actuel de l'indemnisation des chômeurs. Et donc, Gilles avait effectivement sorti un chiffre, mais personne n'était d'accord, parce qu'on n'a pas tous les mêmes chiffres. Donc, il semblerait que, en enlevant la SS, on soit plus proche des 45 à 42% de chômeurs indemnisés par l'ARE, c'est-à-dire qu'en fait ce chiffre est en diminution constante.
Oui.
On diminue régulièrement les droits à indemnisation des chômeurs.
C'est ce qu'on appelle le taux de couverture, c'est-à-dire la part des personnes indemnisées dans les inscrits à Pôle emploi, elle est passée de 52% en 2003, donc sur une quinzaine d'années, à 42% en 2017. Enfin, ça varie un petit peu selon mes... si on tient compte en plus de l'ASS, mais qui n'est quand même que de 490 €, là on arrive effectivement à un chiffre voisin de 50%.
Mais l'ASS étant une indemnité, n'étant pas directement financée par l'État.
Et alors là je voudrais préciser aussi que là en ce moment on nous parle énormément de la baisse des chiffres du chômage, puisque je crois que l'INSEE compte 2 600 000 chômeurs au sens du Bureau international du travail, mais les chiffres sont assez discordants, puisque quand on voit ceux de Pôle emploi, on est à 6 600 000 demandeurs d'emploi inscrits. Et donc, si en plus on tient compte des personnes au RSA qui ne sont pas inscrites, on arrive à près de 8 millions de chômeurs.
Oui, enfin, il y a quand même une petite différence entre le taux de l'INSEE qui est fait au BIT, et en fait, il faut prendre la catégorie A pour correspondre,
oui,
pour se rapprocher.
Oui, c'est ça.
Donc, on est plus proche, effectivement, mais le chiffre de Pôle emploi est plus important que le chiffre de l'INSEE.
Voilà, donc
plus proche de 3 millions,
depuis des années et des années, évidemment, par le jeu des radiations, des contrôles incessants, eh bien, on décourage l'accès aux droits pour les demandeurs d'emploi. Et donc, il y a en plus une indemnité qui est quand même en moyenne de autour de 900 euros.
Oui.
Le gouvernement, donc avec son cadrage financier, va imposer une diminution des dépenses d'année en année qui est pas loin d'un milliard d'euros. Donc on peut s'attendre. Alors en plus déjà il y a parmi les gens qui devraient bénéficier du RSA, il y a énormément de non recours au droit puisque ça concerne à peu près une personne sur trois. Donc on peut compter encore un million de personnes qui devraient y avoir le droit. Donc voilà. C'est pour cette raison-là que, globalement, le collectif unitaire et aussi la CGT s'opposent à la réforme. Parce que cette réforme-là, bien qu'elle soit présentée sous des dehors très d'universalisation de l'assurance chômage pour donner des droits à tous, etc., bien, en réalité, on se rend compte qu'elle vise à décourager et surtout, elle met beaucoup l'accent sur les contrôles et les sanctions, avec beaucoup d'obligations en plus pour le demandeur d'emploi et une effectivité de l'offre raisonnable d'emploi.
Voilà. Alors justement, ça c'était l'objet de la négociation, hein, c'est-à-dire remettre au bout du jour à la fois le contrôle. Donc on a vu que Pôle emploi a organisé à titre expérimental des contrôles dans quelques départements et donc il semblerait finalement qu'elle ait obtenu à quelque chose comme 7% de fraudeurs sur les contrôles engagés, sur les indemnités, sur les de chômeurs indemnisés, hein, tout pour tout, qui ont été radiés, ce qui est quand même pas énorme. Donc elle prévoit de détacher des gens pour ce contrôle, tout en en accentuant pour le coup le contrôle sur les chômeurs via les entretiens professionnels, enfin les entretiens à Pôle emploi, et puis l'offre raisonnable d'emploi qui ressort alors qu'elle avait été enterrée il y a plusieurs années. Alors l'offre raisonnable d'emploi, on en avait parlé un peu à ce micro, donc il s'agit grosso modo de faire baisser les prétentions salariales du chômeur par rapport à son ancien
pas seulement salarial, aussi en termes géographiques
et
de niveau de qualification, etc.
Notamment il y a des, on remet en place des sanctions qui avaient été abandonnées parce que, comme il y avait une forte hausse du chômage, l'offre de raisonnable était devenue obsolète. Et donc là, après 6 mois, le chômeur, il ne pourra plus refuser d'emploi en adéquation avec le choix qu'il a effectué au moment de l'inscription. Il doit accepter une rémunération égale à 85% de son ancien salaire.
Au bout de 6 mois.
Au bout de 6 mois.
Sachant qu'au bout de 12 mois, il aura de nouveau une baisse de ses prétentions.
Et ils vont expérimenter aussi dans 2 départements au départ, un journal de bord qu'on n'a pas encore vu puisque nous faisons partie du comité national de liaison et on a des rencontres avec le directeur général de Pôle emploi. On n'a pas encore vu ce journal de bord qui va nous être soumis avant.
C'est-à-dire, grosso modo, les chômeurs retournent à l'école et ils doivent inscrire toutes leurs démarches.
Chaque mois, ils doivent remplir un journal de bord qui leur permet de mentionner toutes les recherches qu'ils ont effectuées, et il y aura des sanctions à l'appui s'ils ne répondent pas à ce compte rendu de recherche d'emploi.
Voilà, alors justement, les sanctions vont d'un décalage de l'indemnisation, c'est-à-dire une espèce de trou,
une suspension d'indemnisation pendant 2 mois jusqu'à 4 mois ou même une
suppression pure et simple, une suppression totale. Donc là, pour le coup.
Il y a des sanctions graduées jusqu'à trois manquements à la recherche de l'offre raisonnable, l'acceptation de l'offre raisonnable, eh bien, on peut avoir 4 mois de rémunération, enfin d'indemnisation qui saute. Effectivement.
Alors, vous, visiblement, hein, vous, il semble que vous indiquez finalement que toutes ces mesures visent en accentuant la pression sur les chômeurs, on risque de favoriser le non-recours aux droits. C'est-à-dire que certains chômeurs ne s'inscriront pas.
Parce que je crois que l'objectif derrière, c'est de faire diminuer les chiffres du chômage, mais en radiant un maximum de gens.
Ça encouragera bien sûr la radiation. Ce qui a d'ailleurs rendu les statistiques de Pôle emploi pas très fiables du fait des radiations. Qu'effectivement, il n'y a jamais eu autant d'inscrits à Pôle emploi, paradoxalement.
Oui.
Malgré les radiations. C'est un paradoxe qu'il faut noter. On parle énormément du chômeur fainéant, du chômeur fraudeur et du chômeur radié. Mais les gens s'inscrivent presque à Pôle emploi par anticipation. Par crainte du chômage, hein, je pense aux étudiants notamment, et les chiffres de chômage n'ont pratiquement jamais été aussi élevés, même s'ils ont légèrement baissé ces derniers temps, mais
si je me souviens bien, sous Sarkozy, après refus de 3 offres valables d'emploi, c'était la radiation. Aujourd'hui, c'est une offre seulement, apparemment.
Non, c'est deux offres.
Ça réduit aussi, là, pour le coup, on est plus qu'à sanction que dans la
compagnie. Pour les récidivistes, oui, je pense qu'il y aura des sanctions de radiation.
Alors, justement, on était sur cette pseudo-universalité des droits. Donc, il faut rappeler que pendant sa campagne présidentielle, Macron avait avancé 2 propositions extraordinaires, fabuleuses, qui étaient l'indemnisation pour les démissionnaires. Et l'indemnisation pour les indépendants. Mais il semblerait que ce soit entre la déclaration de campagne et puis la réalité de ces nouveaux droits, il y a quelques soucis en fait.
Oui, évidemment, puisque d'après ce qu'on voit en réalité, les conditions qui sont mises sont tellement sélectives que ça va concerner peut-être quelques dizaines de milliers de personnes. Alors pour les démissionnaires, il faudrait une durée préalable de 5 ans ininterrompue dans un emploi, l'existence d'un projet de reconversion agréé par une commission paritaire régionale et qui correspond en même temps aux besoins du marché du travail local, avec la poursuite d'une formation, un contrôle et un suivi par Pôle emploi de la réalisation du projet de la personne, et au total...
Pour un budget global de 180 millions
d'euros. Alors le budget total, ça serait quand même, il y aurait une enveloppe, mais ça serait quand même assez limité. Donc on pense que ça concernera effectivement... pas énormément de personnes.
Et surtout que c'est une espèce de bureaucratie bien compliquée pour quelqu'un qui veut juste changer d'employeur sans se retrouver sans rien, en fait.
Ça correspond aussi en partie avec ce qui est contenu dans la partie du projet de loi qui concerne la formation professionnelle et les parcours, le compte personnel de formation. C'est-à-dire que il y aura des modalités particulières de transition professionnelle, d'organisation de la transition d'un emploi à un autre ou d'un métier à un autre. Mais tout sera particulièrement cadré et codifié.
Et est-ce que ça sur le marché du travail? Parce que tout de même, entre la logique qui serait une logique administrative et l'application elle-même, j'imagine que les entreprises ne vont pas s'embarrasser forcément de prendre toutes ces étapes. Tout ça sera à la charge du salarié, finalement.
En général, quand on demande, quand une personne, par exemple, personne de formation demande un agrément, il doit correspondre à ce qui est écrit dans la loi. Donc, effectivement, il sera obligé de fournir un certain nombre de documents qui donnent raison à l'État de lui dire, effectivement, on vous agrée, donc vous avez le droit de faire vos formations. Par contre, après, une fois que l'agrément est donné, libre à eux de faire ce qu'ils en veulent. En fait, après, effectivement, il y a beaucoup d'exceptions qui arrivent selon certains centres, etc.
Moi, je pense à une époque où on a supprimé l'autorisation administrative de licenciement. Et donc, enfin, on a l'impression de revenir à un espèce de cheminement, d'encadrement. Mais là, en l'occurrence, pour des gens qui voudraient quitter leur travail. C'est un peu ça l'idée, quoi. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Mais un retour de démarches administratives au sein même de l'entreprise, qui vise, enfin, quelque part, aussi à, enfin, plus ou moins, je prends un autre exemple. Aujourd'hui, on sait que les entreprises ne s'embarrassent pas beaucoup pour licencier des gens. Mais, dans le cas de quelqu'un qui voudrait changer, d'emploi, et qui, voilà, donc il voudrait juste, mais qui n'arrive pas à être en accord avec son employeur, eh bien, le contrôle administratif fait en sorte que qu'on pourrait essayer de le maintenir à son poste de travail. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une espèce de renversement. Là, il y a eu une époque où le licenciement était surveillé et étroitement contrôlé, et d'une certaine façon, il l'est aussi un peu. Bon, voilà, c'est les nouveaux devoirs du salarié à changer d'entreprise, quoi, sans trop de risques pour lui.
Oui, mais... c'est pour faire moi je crois que c'est surtout le but, c'est de faire passer la pilule, parce que avec toutes les deux lois travail qu'on nous a imposées successivement, et dans toute façon les deux Macron était derrière, il s'agit de favoriser surtout plus de flexibilité, plus de mobilité entre les entreprises. Donc on cherche à inciter effectivement les beaucoup de personnes peut-être à se mettre à leur compte, à devenir micro-entrepreneur, chef d'une petite entreprise, etc. On va inciter les gens à faire des choses comme ça. Alors après, effectivement, ils auront un projet qui est très très cadré, et ils seront suivis par les services de Pôle emploi, mais s'ils ne respectent pas toutes les étapes du processus, eh bien à un moment donné on pourra les sanctionner, quoi. Oui. C'est clair.
Alors oui, donc on va revenir sur les histoires de formation, mais je voudrais juste finir sur un point de cette négociation qui était quand même qui était très très épineux, qui était essentiel, c'était la taxation des contrats courts. Donc les auditeurs le savent, qui écoutent cette émission le savent sûrement maintenant, c'est que il y a une période 70% des embauches étaient des CDD de moins d'un mois. Donc c'est pour dire et donc selon les chiffres que vous publiez, 40% du budget de l'assurance chômage est mobilisé pour des contrats ultra courts.
Oui.
Et seulement 17% pour les ruptures conventionnelles. Donc là par contre
c'est quand même pas mal, hein.
C'est-à-dire que ça a beaucoup gonflé.
C'est vrai que la question des contrats courts, Madame Pénicaud avait dit que ce serait un de ses chevaux de bataille, et en fait cette question elle est remise à une négociation prochaine. C'est là elle a été abandonnée carrément, et entre autres c'est pour ça que la CGT ne signera pas cet accord du 22 février.
Ça a été remis à une négociation de branche,
par branche.
Il y aura certains aménagements.
Ça ne concerne vraiment que les contrats très courts, quoi. Les contrats de moins d'un mois, effectivement, qui sont devenus une forme d'embauche. Mais il y a quand même énormément de personnes qui reviennent à l'issue d'une période d'interruption. Ils reviennent dans la même entreprise après. Donc c'est une pratique qui s'est développée de débaucher et de réembaucher les mêmes personnes. Et pendant ce temps-là, c'est l'assurance chômage qui
fait le pont.
Voilà, c'est ça.
Il y avait un point qui était important aussi dans cette dernière négociation, enfin qu'on appelle concertation, c'est que pour les sanctions qui touchent les chômeurs, ce n'est plus la directe ou la préfecture qui est décisionnaire des sanctions, ça va être la direction de Pôle emploi, peut-être même, on ne sait pas encore, c'est un peu le flou. Sur cette question, c'est sans doute le directeur d'agence qui va être décisionnaire.
Ça promet beaucoup de casse, parce que j'imagine qu'il n'y aura pas des masses de recours. Ça, on ne sait pas encore, mais voilà. On écoute une petite chanson, et puis on revient sur le sujet tout de suite après.
La pendule fait tic-tac, tic-tic.
Les oiseaux du lac pic pac pic pic.
Oui, bonsoir, bonsoir à tous. Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel dans l'émission Mode d'emploi et c'est l'équipe d'AC 1920. Et donc je suis avec Gilles. Bonsoir Gilles.
Bonsoir à tous.
Et Odile et Catherine d'AC. Et donc on parlait du futur projet de loi qui s'appelle le projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Ça ne s'invente pas, hein, c'est du Macron, un poète. Et mais qui contient effectivement, qui va contenir une partie de, eh ben de ce qui a été négocié dans le cadre de l'UNEDIC. Et donc, c'est vrai qu'on a oublié dans cette espèce d'universalité des droits que nous avait promis Macron le sort des indépendants, puisque effectivement, on sait qu'aujourd'hui, via Uber et donc toutes ces plateformes internet, en fait, on a des faux indépendants qui travaillent à la commande et qui payent eux-mêmes leurs charges. Et donc là, par contre, ça s'est négociation, c'est pas très bien passé pour eux, puisque les droits ont été extrêmement réduits.
Enfin, effectivement, c'est parmi les choses qu'on pouvait attendre de ce projet de loi, hein, parce que à la base, on donne un tout autre sens au terme d'universalisation. Et on attendait que c'est toutes ces catégories-là de micro-entrepreneurs, de faux indépendants qui sont en réalité subordonnés à des plateformes, eh bien, puissent avoir des droits un peu comme les salariés. Et en fin de compte, ça se passe pas du tout comme ça, parce que c'est une question qui a été quasiment écartée et qui devrait être traitée plus tard par une commission ou un groupe de travail qui va étudier la question. Ce qui a été dit pour le moment, c'est création d'un régime spécifique ouvert aux indépendants, mais qui serait en fait un régime fiscalisé distinct de l'assurance chômage des salariés et couvrant uniquement des situations de liquidation judiciaire effective et définitive, avec une indemnité forfaitaire qui serait probablement de 6 mois. Enfin, toutes les modalités sont pas encore fixées, mais c'est quelque chose de cet ordre. Et donc, ben, il y aurait pas de contribution financière, il y aurait pas de cotisation et probablement des régimes complémentaires par des assurances privées. Donc là, nous, on était au niveau du collectif, on est pour le principe d'une indemnisation des indépendants, donner un sens véritablement universel en revenant l'objectif d'universalité de la sécurité sociale et à ses principes tels qu'ils ont été posés en 1946, mais sur ces catégories-là, il faudrait effectivement que les indépendants subordonnés voient leur contrat de travail requalifié et que les plateformes soient contrainte de cotiser, de payer des cotisations comme pour les salariés.
Oui, tout à voilà. fait. Parce qu'en fait, le projet de loi, enfin, ne vient pas à la rescousse de la baisse d'activité qui concerne ces faux salariés, ces faux indépendants plutôt. C'est-à-dire que la logique du projet de loi est de ne pas se substituer à la baisse d'activité des employeurs qui pourtant embauchent régulièrement les mêmes personnes. Donc on retombe d'une certaine façon sur la discontinuité d'activité qu'on retrouve dans les contrats courts.
Oui, mais ces questions-là, en fin de compte, sont pas traitées. Hein. Enfin, non. Alors donc là, le cas en plus, il est prévu pour les indépendants un montant minimum de durée d'activité, comme pour les démissionnaires hein, antérieurs, durée d'activité et revenus ou chiffre d'affaires de l'entreprise quand même qui serait assez serait éliminatoire hein, parce qu'il y aurait un seuil minimum d'activité à avoir eu pour pouvoir avoir droit en cas de liquidation judiciaire à cette indemnisation.
D'accord, donc en tout cas c'est pas la direction qu'on a prise.
Je crois que c'est 10 000 euros de chiffre d'affaires.
Pour les indépendants c'est 10 000 euros.
Non, ils n'ont pas fixé les modalités totalement hein, là, mais on sait que c'est...
Mais de toute façon, il y a une confusion hein, entre vrais et faux indépendants, de toute façon. Enfin, il me semble, hein,
oui. Ouais,
entre Taxi d'Uber, voilà.
Oui, c'est ça.
Donc ça, effectivement, donc, c'était pour les indépendants. Donc le projet de loi qui s'appelle Projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel contient une large part pour la formation. Donc on refera une émission là-dessus. Oui, mais Gilles, en quelques mots...
Oui, j'ai consulté, donc c'est par Internet, il y a 96 pages hein, donc, de ce projet, qui est très, très restrictif finalement, et puis qui quand même prend comme, qui est assez large, hein, il prend tout le monde en compte. Mais c'est du juridisme au plus haut degré, donc il faut vraiment être bien informé pour comprendre ce qui s'y dit, et se référer aux articles de loi qui font à chaque ligne il y a comme dit la loi un tel du code du travail. Bon, et puis il y a surtout un principe un principe sémantique qui consiste à déplacer des mots, les changer pour les rendre plus vagues ou alors pour justement que ce soit imprécis. C'est-à-dire que par exemple, je vais donner un exemple tout bête, hein. Je me trompe pas, il est où? Enfin, je trouve pas.
Oui, apparemment, enfin, il s'agissait pas de tout remettre à plat, mais.
Tout remettre à plat, mais c'est très, très, très confus. C'est-à-dire qu'ils changent les mots, ils en mettent d'autres à la place, mais ces mots-là
sont. Oui, il y a le mot compétence qui, voilà. En fait, remplace le mot qualification.
Tout à fait, voilà. Et d'ailleurs, ils vont créer d'ailleurs une structure, hein, c'est France Compétences.
Oui, alors il y a un nouvel organisme, effectivement, qui va être créé, qui s'appelle France Compétences. Et qui sera chargé finalement de certifier toutes les formations qui seront faites par des organismes de formation privés ou publics.
Ça, c'est pas forcément une mauvaise chose, hein, puisque c'est un peu difficile de.
Alors, il y a une autre chose, parce qu'il faut être quand même un petit peu sérieux, surtout quand on fait des lois. Hein. Il y a un article qui s'appelle l'article 6211-4, qui dit, donc noir sur blanc hein, dans le projet de loi, la devise de la République, je lis, hein. Le drapeau tricolore et le drapeau européen sont apposés sur la façade des centres de formation d'apprentis. Donc là, on est dans du n'importe quoi pour le coup.
Parce que bon, effectivement, on met ça dans un projet de loi, on peut se demander l'utilité. Bon, on y reviendra de toute façon, mais c'est vrai que la question reste de l'argent de l'UNEDIC pour la formation professionnelle, parce que c'est toujours un enjeu et c'est toujours des montants importants. Et on se demande toujours comment Pôle emploi parvient à proposer des formations aussi riquiqui et assez courtes et pas vraiment qualifiantes pour les chômeurs avec le magot de la formation professionnelle qui, en principe, est là dans ses caisses. Mais on y reviendra plus tard. Donc, à la suite hein, de ce projet, vous avez créé un collectif, qui est un collectif unitaire. J'en ai parlé en début d'émission. Oui. Mais pourquoi un collectif unitaire? On est tous d'accord sur la question.
Oui, donc, on va dire il y a effectivement les quatre associations Agir Ensemble contre le chômage, APEIS, MNCP, CGT privé d'emploi. Les syndicats CNT, SNU, Pôle emploi, FSU, Sud emploi, Solidaire, les organisations ATTAC, Ensemble, Jeunesse ouvrière chrétienne, République et socialisme et beaucoup d'autres. Donc ce collectif il a déjà organisé plusieurs actions, donc notamment l'occupation d'un carrefour à Saint-Denis Basilique le 14 février, une conférence de presse devant une société de tourisme à République pour protester contre les insinuations et la stigmatisation des chômeurs par plusieurs députés ou de la République en marche.
Oui, on sait qu'on part au Bahamas avec les chômeurs.
Qui accusent les chômeurs tout simplement de partir 2 ans en vacances avec leurs indemnités de chômage. Alors, moi j'ai regardé un petit peu quelles étaient les destinations. Hein. Il y a 40% des Français, et dont la grande majorité des chômeurs et des familles aux revenus modestes, qui ne partent quasiment jamais en vacances. Alors, comment ils pourraient aller au Bahamas? J'en sais rien. Je crois qu'à part les députés de la République en marche, il n'y a pas grand monde dans ce pays qui va au Bahamas, dire.
Qui sont en marche arrière.
Bref, c'est du n'importe quoi. Donc, il y a eu le 21 mars cette action. Le 22 mars, un cortège dans la manifestation des cheminots et de la fonction publique. Et donc, maintenant, ce collectif, il a quelques revendications fondamentales sur lesquelles tout le monde s'est mis d'accord. Affirmer la nécessité d'une indemnisation de toutes les formes de chômage avec le SMIC mensuel comme référence. Et toutes les situations doivent être prises en compte pour l'accès aux droits, même celles des démissionnaires, des chômeurs de longue durée, des gens qui sont dans les minima sociaux, les indépendants, les primo-demandeurs d'emploi, etc. Donc toutes les situations. Dénoncer particulièrement le système de maltraitance qui se met en place au niveau de Pôle emploi sur les demandeurs d'emploi, les contrôles et sanctions qui vont aboutir à un non-accès aux droits pour les demandeurs d'emploi. Et donc, voilà, derrière, rien qu'en se référant à ces revendications-là, on voit que la réforme, ben, elle est complètement en dehors de ce qu'il faut. Mmh. Hein, donc, après, il y a des questions un peu plus compliquées sur lesquelles tout le monde n'est pas tout à fait d'accord.
D'accord. Alors, Catherine, je vais conclure par toi, puisque, effectivement, donc, le collectif est créé, mais ce projet de loi, est-ce que ce sera une ordonnance? Ça sera quoi? Est-ce qu'il y aura un débat, des amendements?
Alors, on a quelques informations nouvelles sur les modalités. Effectivement, Madame Pénicaud le présentera au Conseil des ministres le 25 avril, certainement plutôt que le 18. Il y avait une hésitation entre le 18 et le 25 avril. Après, ça passera en lecture au Sénat. Et en août, ce ne sera plus par les ordonnances, mais il y aura une procédure d'urgence à l'Assemblée nationale au mois d'août.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire, une procédure d'urgence? C'est un vote bloqué ou non, c'est pas un vote bloqué?
Tout ce qu'on sait, c'est que ça sera en plein milieu de la période d'été. Mm-hmm. Donc, et avec, en tenant compte de d'une actualité particulièrement chargée en ce moment, puisqu'il y a aussi le projet de loi sur l'immigration et le droit d'asile. Mm-hmm. Il y a aussi le projet de loi Élan mm-hmm. sur le logement social qui va faire des gros dégâts avec des ventes à la découpe, des appartements mm-hmm. dans le logement social, etc. Tout détruire mm-hmm. au niveau du logement social. Donc, mm-hmm. il y a vraiment beaucoup de choses. Donc, tout ça, ça va probablement passer dans le courant de l'été. Vous voyez? Et bon, et pour pas parler encore du statut des cheminots et de tout.
Oui, oui, bien sûr, hein, de la vague de libéralisation qui a lieu, en fait. Hein. Enfin, de privatisation, pardon.
Oui, le statut des cheminots, mais qui n'est qu'un avant-goût pour détruire le statut de la fonction publique, je pense, pour
les années.
La majorité.
Vous connaissez l'adage, hein, c'est en marche, mais en arrière.
Oui, alors là.
Eh bien, est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter ici? Non, une déclaration solennelle, appel à la manif.
Une déclaration solennelle parce que parce que j'ai pas eu le temps d'en parler suffisamment, mais c'est vrai que c'est tellement important et large, et il faut vraiment en parler mm-hmm. longuement. Mm-hmm. Reprendre tout ce qui concerne la formation professionnelle et l'apprentissage. Il faudra carrément en faire voir une, voire même plusieurs émissions là-dessus.
Oui, avec tout à fait. Invités, on est bien d'accord. Gilles, merci. Voilà. Odile, Catherine, on va bientôt se revoir dans les manifs, hein, parce qu'il n'y a que ça à faire. Non, sérieusement, la prochaine action du collectif unitaire.
Nous pensons que nous allons réagir à l'annonce au Conseil des ministres. Et on a prévu le 25 certainement une conférence de presse avec la Confédération CGT et les 4 associations de chômeurs. Peut-être plus largement le collectif Unédic, mais ça...
Et plus un rassemblement devant la direction de Pôle emploi à Porte des Lilas.
Bon, c'est pas encore définitif.
Tout le monde n'est pas encore d'accord. Eh bien, écoutez, de toute façon, on vous tiendra au courant et puis vous pouvez toujours vous connecter au site d'Assier. Il publie le projet de loi dans son intégralité, dans les 96 pages. Et je vous recommande si vous avez rien à faire. Et si le sujet vous intéresse, Agir Ensemble contre le chômage, merci. Agir Ensemble contre le chômage.org. Oui, et donc voilà, si le sujet vous intéresse, vous pouvez effectivement vous plonger là-dedans. On va se quitter sur ces belles paroles et ce sera SM tout de suite après nous. Merci.
Au revoir.
Bonsoir.
Au revoir.
Inna Allahu ya'u zamil wa yuhibbu الخيول الزهر